Professeur Magnard, bonjour.
Bonjour, Eric.
Merci d'être notre invité pour une série de trois émissions sur RCF Isère et Isère Classique. Je me permets de vous poser une interrogation, puisque j'ai lu dans l'un de vos ouvrages « Pourquoi la religion ?», vous écrivez « Le paysan traditionnel pourrait être considéré comme l'image même de l'homme religieux. Il a fait de sa terre sa première page d'écriture. Cette page écrite de ses efforts à tracer les sillons, à creuser les fossés, à composer le paysage qui se déroule comme la séquence agencée des contrats passés avec la nature. » Professeur Magnard, ma première question, c'est, vous êtes un philosophe du terroir.
Exactement, je suis un philosophe enraciné, car j'ai conçu mon engagement en philosophie pour retrouver mes racines. Je me disposais, à l'aube de mes études, à enseigner le grec et le latin, quand je découvris avec stupeur que la nouvelle génération rejetait l'héritage. Le problème primordial n'était donc pas celui du contenu de l'ouarie, mais de la manière de la transmettre et de la faire accepter par ceux à qui on l'a portée. Donc, c'est cette question de l'héritage qui m'incombait absolument. Et je me posais comme règle de considérer comme une nouvelle barbarie ce refus d'hériter. Ce refus d'hériter, comme on l'expliquait dans ces années 46, 47, 48, il tenait à ce que le patrimoine intellectuel, moral et spirituel était frappé d'obsolescence, considéré comme révolu, avec toutes les valeurs qu'il portait. Pourquoi cela ? Parce que on estimait qu'on en avait fait un mauvais usage pendant le temps de l'occupation. Pour moi qui venais d'Afrique du Nord, où ma famille avait passé toute la guerre, j'ignorais complètement ce débat. Et ce qui me frappait, c'était que l'on pût considérer l'héritage comme caduque. Pourtant, c'est bien René Jarre qui, dès 1943, disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Ma tâche, c'était donc de comprendre d'abord pourquoi le refus de l'héritage, ensuite comment le faire admettre, car je ne pouvais pas considérer que ce que nous avait légué la Grèce antique à travers Homère, à travers Sophocle, Échille et Euripide, à travers Platon, était nul et non avenu. Comment expliquer ce rejet ? Comment expliquer ce refus ?
Pierre, cette prise de conscience, elle émane d'abord d'un jeune homme, en 1946 ou 47, je crois.
Oui.
Vous n'êtes pas encore philosophe.
Pas encore.
Donc, à partir de quel moment la philosophie s'importe en vous-même pour venir, j'ai envie de dire, soutenir le constat de l'homme ? Quel est le déclic ? L'événement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été immédiat, ça a été brutal, ça s'est fait petit à petit. Comment cette perception s'est métabolisée en vous ?
Ça s'est fait d'une manière très rapide. Le rejet par mes condisciples du plus clair de l'héritage me semblait tellement préjudiciable à tout ce que nous pouvions vivre dans une université qui ne remplissait plus son office. On pourrait se référer à un mot qui m'avait impressionné de Jean-Jacques Rousseau, qui déjà en son temps déplorait que l'on n'admit pas certaines valeurs et certaines vérités sous prétexte qu'elles étaient lourdes à assumer. Et il avait cette expression « ce sont des aliments de forte digestion dont les petits estomacs de nos compatriotes et de nos contemporains sont devenus incapables ». Et il stigmatisait la prose ô combien brillante de Voltaire, pour lequel il n'avait aucune affection, faisant valoir que celui-ci mettait à la portée des débiles une vérité en quelque sorte émasculée. Il fallait retrouver les aliments de forte digestion pour pouvoir transmettre à ceux qui nous écoutaient une vérité susceptible de les faire vivre.
Professeur Magnard, on va changer d'atmosphère, parce que, en pensant à vous, je pense à un compositeur qui est né à Annonay en 1879. Il a fait la connaissance de Vincent d'Indy, et c'est un compositeur qui a écrit la première biographie de Vincent d'Indy. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'atmosphère ardéchoise. Il a écrit sa biographie en 1949. Il a composé une œuvre qu'il définit ainsi, et ça va vous plaire. « Un soir de 1903, à la nuit tombante, dans la montagne, je contemplais le majestueux paysage qui s'offrait à mes yeux, quand tout à coup s'éleva le chant d'une bergère. qui lançait ses phrases à toute volée. Me gardant bien de me montrer, je commençais à noter la mélodie, lorsque de très loin, comme porté par la brise qui se lève le soir sur la montagne, je perçus, à peine perceptible, la voix d'une autre bergère qui répétait le thème à 6 kilomètres de là. J'en composai immédiatement une œuvre, tellement j'étais ému. Je vous propose qu'on écoute cette œuvre, Pierre. Professeur Pierre Magnère, Joseph Canteloube, Les Chants d'Auvergne, une œuvre de plein air, une œuvre de colline, une œuvre de foin, une œuvre de nature, ça peut que vous toucher.
C'est la moyenne montagne qui entoure Annonay.
C'est beau. Et je trouve que dans votre discours philosophique, il y a des tas de passerelles qui nous ramènent à cette musique.
Qui me ramènent à ce pays, car c'est ce rapport avec mon sol qui m'a permis de ne jamais perdre cœur et de conserver toujours le sens du sens.
Joseph Canteloube précise quelque chose qui aurait pu figurer sur l'un de vos ouvrages. Il écrit « À très peu de distance, la nature des roches et l'aspect du paysage se modifient totalement avec la formation géologique. De la même façon, les systèmes harmoniques du folklore deviennent différents dès lors que les sources humaines varient en fonction de leur tradition culturelle. » Quand elles sont liées au terroir. L'amour du folklore est rarement innocent. Je soutiendrai même que le facteur qui en déclenche le goût est d'ordre idéologique.
C'est extrêmement juste.
Est-ce que vous nous permettez de revenir à l'initialité de votre pensée ? Nous en étions au constat brutal que vous avez fait autour du Maroc.
En 1946.
Et j'ai envie de dire, d'une assistance philosophique, peut-être, pour vous permettre de supporter les choses, de trouver une solution? Quel est le sens? Vous aimez la notion de sens. Quel est le sens que vous donnez alors à l'intégration de votre statut de philosophe à ce moment-là?
Eh bien, je suis bizarrement devenu philosophe à travers la littérature. En l'occurrence, je lus le livre d'Albert Béguin, L'âme romantique et le rêve, à cette époque même, qui me révéla Novalis, le poète allemand, qui définissait la vocation de la philosophie. La philosophie, disait Novalis, n'a d'autre but que de nous permettre de retrouver nos racines perdues. La philosophie n'a d'autre but que de répondre à ce sentiment de dépaysement qui nous envahit. Et c'est lui qui est comptable de cette expression « la philosophie est une réponse au mal du pays ». Le mal du pays, c'est une invention de Novalis. Et ça s'appliquait tellement bien à ma situation que je cherchais par quel chemin je pourrais retrouver le pays perdu. Le pays perdu, c'est-à-dire celui dans lequel je pourrais à nouveau retrouver mes racines. Le pays perdu, l'arrière-pays, comme dira un jour mon ami Yves Bonnefoy, l'arrière-pays qui est en quelque sorte au-delà du paysage, mais qui, pour qui se met à rêver, ouvre ce chemin qui permettra de nous y conduire. L'arrière-pays. Et c'est cette rêverie sur l'arrière-pays que je commence à connaître dans ces années 46-47 qui me convainc que de l'autre côté du paysage, il doit y avoir une réponse à mes questions. Cette réponse que mes contemporains n'arrivent pas à me donner. Et pourtant, je cherchais partout. Je me souviens d'être allé jusqu'à interviewer un jour sur la route de Chartres François Mauriac lui-même, qui, ne comprenant pas mes questions et mon désarroi, car il eût voulu me voir confiant dans l'avenir d'une manière tout à fait aveugle, téléphona dès son retour à l'un de mes oncles pour lui dire qu'il fallait tirer les oreilles à son neveu. Réponse tout à fait lamentable de la part de cet homme qui prétendait être un des mentors de la jeunesse du temps. Et c'est pourquoi, non content de cette réponse, je cherchais un autre ténor et je me rendais un jour, avec crainte et tremblement, jusque au petit bureau où recevait, comme à un confessionnal, les gens qui s'y pressaient, André Malraux, pour lui poser la question « Mais enfin, qu'est-ce que vous avez, maître, à nous proposer, en fait, de cheminement ?» Il me répondit, de but en blanc, « Le gaullisme. » « Mais qu'est-ce que le gaullisme ?» Et il eut cette réponse, qui avait, disons, la valeur de la sincérité. « Le gaullisme, disait-il, c'est la fidélité à l'absence de fidélité. » La fidélité à l'absence de fidélité, c'était donc bien dire qu'il était aussi conscient que je pouvais l'être du désarroi de la jeunesse de l'époque.
Professeur Magnard, en parlant de fidélité, nous allons retrouver nos bergères, mais alors des bergères lituaniennes cette fois-ci, qui échangent de colline à colline, mais non plus avec des voix, mais avec des flûtes.
Thank you.
professeur Magnard, nous écoutions des bergères, non plus ardéchoises, mais lituaniennes, qui échangeaient de colline à colline avec des flûtes. Avec le recul aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la mitoyenneté entre le philosophe et l'homme, et la façon dont vous avez organisé votre pensée autour de l'individu, autour de Pierre Magnard? Est-ce que, avec le recul, si le constat était le même, le parcours serait le même, le parcours philosophique?
Je pense que j'ai obéi à une nécessité. Je n'ai jamais décidé d'être philosophe. J'ai été contraint de le devenir, purement et simplement parce que la relation au patrimoine n'est pas exactement la même chez un littéraire et chez un philosophe. Le littéraire se contente de recevoir le patrimoine, de l'inventorier, de l'expliquer, de le mettre en lumière. Encore faut-il qu'il y ait autour de lui une réceptivité suffisante, une volonté d'accueillir et de s'approprier cet héritage. Or, c'est précisément parce que j'étais particulièrement sensible à cette nouvelle barbarie dans son refus d'hériter que je ne pouvais que considérer le problème de la transmission comme le problème majeur, comme le problème primordial. Et c'est pourquoi j'adoptais l'attitude du philosophe à l'endroit du patrimoine plutôt que l'attitude du littérateur. Et c'est à ce titre que je devais très vite m'interroger sur le nouveau mal du siècle. On a tellement parlé d'un mal du siècle à l'époque romantique que je m'étonne que l'on n'ait pas transposé cette expression au XXe pour dire le désarroi ou le désastre de cette jeunesse qui, consciente d'avoir perdu son astre, ne sait plus à quel saint se vouer. Et c'est précisément ce mal du siècle que je tentais d'analyser. On l'appellera nihilisme, je préférerais l'appeler fatigue du sens, d'une expression que j'emprunte à mon ami trop peu souvent cité sur les antennes, Richard Millet.
Vous avez écrit que la tentation nihiliste correspondait pour vous un peu à un temps de l'absurde.
Oui.
Vous citez le désespoir d'Albert Camus et un peu l'esprit de dérision de Samuel Beckett, et vous critiquez quand même très violemment ce que vous nommez les marteaux-piqueurs de la déconstruction. Comment, sur un même constat, des pensées philosophiques peuvent diverger à ce point?
Il y avait quelque chose de commun à tous les gens que vous venez de citer. Vous citez Samuel Beckett. Samuel Beckett était lecteur d'anglais à l'école quand j'étais élève à cette même école. Et une année où nous n'avions pas rempli notre devoir, c'est-à-dire rédigé le texte de la revue de fin d'année, qui était une représentation théâtrale et que nous donnions à nos condisciples et à nos maîtres, nous demandîmes à Beckett de bien vouloir s'en charger. Il écrivit dans la semaine ce texte fulgurant et désespérant En attendant Godot. Et je fus ainsi à la première d'En attendant Godot dans le petit théâtre de l'école. En attendant Godot, le titre dit bien ce dont il est question. On attend toujours ce personnage fabuleux qui doit transformer nos vies, Godot, c'est-à-dire Dieu, et Godot ne vient jamais. C'était bien l'expression de ce mal du siècle. Mais j'en trouvais autour de moi, puisque vous me demandez qui, j'en ai connu d'autres. Et j'avais un bon camarade avec lequel nous prenions le café à Saint-Germain-des-Prés tous les jours. C'était Boris Vian. C'était le pathétique Boris Vian. C'était le désespéré Boris Vian, qui cachait son désespoir derrière un humour implacable. À cette époque, il était assez besogneux. Je devais payer le café, car il n'en avait pas les moyens. Tu vas bien payer un café et un croissant à ton Boris, sans quoi il crève de faim. Mais enfin, mon cher Boris, si un jour tu écrivais tout cela et le portais à un éditeur, quel témoignage sur ce que nous vivons! Et c'est ainsi qu'il m'apporta un beau jour un cahier intitulé « L'écume des jours ». J'ai vu naître l'écume des jours, comme j'ai vu produire En attendant Godot. Le nihilisme de cette époque, c'est cela. Plutôt que Jean-Paul Sartre, que nous voyons de très loin, et qui nous paraissait tout de suite avoir fait de notre malheur ou de notre malaise un fonds de commerce.
Professeur Magnard, hier soir, lors d'une conférence, vous avez dit « Le barbare n'est pas le sauvage qui a un couteau entre les dents, mais le lâche. »
Exactement.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, j'ai dit tout à l'heure que la barbarie était le refus des irrités. J'ai parlé il y a un instant, selon la formule de mon ami Richard Millet, de la fatigue du sens. À travers cela, je vise mes condisciples qui, dans cette situation d'inconfort qui est la leur, ont trouvé le moyen d'échapper à la fatigue du sens. Si le sens fatigue, eh bien, abaissons l'exigence tous les jours davantage. Et abaisser l'exigence, c'est en demander toujours moins sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, de telle sorte que on finit par produire une culture soft, une morale light et des exigences artistiques de plus en plus basses afin que le sens cesse d'être lourd sur les épaules d'une génération fatiguée.
Professeur Pierre Magnard, nous arrivons au terme de cette première émission. Nous allons nous retrouver très prochainement. Et nous nous quittons avec Joseph Canteloube et encore un extrait des Chants d'Auvergne. Merci, professeur Magnard.
Merci.